Alors donc maintenant, en plus, voilà, davantage mettre l'accent sur l'idée que nos dons doivent se développer, donc, s'exercer et être confirmés. Donc, chacun donc, d'entre nous, comme nous l'avons vu, chacun d'entre nous a reçu des dons. Alors nous disposons de plusieurs pistes pour discerner ces dons. Alors certains ont peut-être déjà une conviction de dire moi je pense, moi je suis sûr que le Seigneur m'a accordé tel ou tel don. Mais on peut aussi, comme piste, utiliser nos centres d'intérêt, ce que nous aimons faire et ce que nous n'aimons pas faire. Nos expériences personnelles. Je vois une petite rima, c'est pas clair? Par exemple, des fois, on peut s'illusionner de dire ah moi, je vais reprendre l'exemple des enfants. Oh, moi, les enfants, j'ai un appel particulier. Dieu m'a donné l'amour des enfants pour les enseigner. Et puis, une expérience un jour, tiens, viens avec nous. Et puis, au travers de cette expérience, on se dit non, je suis pas fait pour ça. Voilà, c'est dans ça. Voilà, on a des expériences des fois positives qui font dire mais. On est surpris même par soi-même en disant tiens, j'ai l'impression que j'ai un certain don pour cela, ou au contraire, des fois l'expérience nous montre que non, c'était peut-être dans notre espoir d'être ceci ou cela, mais en fait, ça semble pas en tout cas correspondre au don que Dieu nous a donné. Mais quelque chose qui est très précieux aussi pour nous aider à discerner nos dons, c'est le regard de ceux qui nous connaissent bien, des gens que nous côtoyons, en particulier que nous côtoyons dans l'Église. Parce que parfois, certains de nos dons font tellement partie de... Pour nous, c'est habituel, on ne se rend pas forcément compte. Quelqu'un qui serait extrêmement doué en mathématiques ne comprendrait pas que quelqu'un qui a des difficultés, en tout cas, à faire une opération... Alors, je vais plutôt ramener ça même dans l'Église. Moi, j'ai eu une professeure à l'Institut biblique qui était allemande, qui avait fait des études supérieures en Angleterre, qui enseignait l'hébreu, le grec, qui était professeur de doctrine, qui avait un doctorat de physique et qui a fait ensuite une thèse de psychologie, de sociologie, non, d'histoire de l'Église. Enfin bref. Et en tout cas, face à cette prof, je pense qu'elle devait faire un gros effort pour dire que les étudiants qu'elle avait en face d'elle avait de la difficulté à se mettre en tête le plan complet d'Ésaïe en l'espace d'une nuit, par exemple. Parce que, pour elle, ça ne lui posait pas de problème. Voilà. Donc, mais quelqu'un... Alors, pourquoi je prends cet exemple? Parce que lorsque des fois, on a un certain nombre de facilités, on n'en est pas conscient, ça nous semble normal, et c'est les regards d'autres personnes autour de nous qui, elles, remarquent, dire, mais il me semble que ça, quand même... C'est quelque chose que tu fais plutôt bien, mieux que les autres. Donc, le regard des autres peut aussi vraiment nous aider, mais aussi dans un sens comme dans un autre. Des fois, on s'imagine un certain nombre de choses, et puis lorsqu'un ami fraternellement vient nous dire, on se rend compte que lui, il n'a pas perçu les choses comme nous. Alors, donc, nos aspirations personnelles ou le regard que les autres portent sur nous ne sont pas des pistes qu'il faut négliger. Mais ce n'est qu'un point de départ. Ça ne veut pas dire parce que on a l'impression qu'on est plutôt doué ou que quelqu'un nous dit quelque chose, ça ne veut pas dire que forcément on a le don. Mais déjà, c'est un point de départ. Pour savoir si nous avons reçu ou non un don, ce que nous avons le plus besoin, c'est d'essayer, quelque part, de tester, de mettre en pratique ce don et de voir si ces dons vont porter du fruit. Parce que des fois, on peut s'imaginer, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent ça, mais des fois je me demande pour certains dons spirituels, en pensant que les dons ils apparaissent du jour au lendemain. Alors, je suis absolument convaincu que Dieu peut agir ainsi, que du jour au lendemain, on peut avoir un don. Mais l'expérience quand même nous montre qu'en règle générale, nos dons se développent petit à petit. Et au fur et à mesure qu'on les utilise, ces dons vont se développer. Et ça la demande à la fois de la volonté, du travail ou de la pratique. Alors, quand je dis Bernard, il me coupait un peu l'herbe sur le pied, c'est que l'exemple que j'avais imaginé, c'était quelqu'un, il n'a jamais joué de musique de sa vie, il n'a jamais fait partie d'une chorale, Et un matin, il se réveille et il découvre qu'il non seulement il sait jouer de la musique, mais qu'il est capable de la jouer de telle sorte ou de conduire un groupe dans une église pour que l'église fasse monter sa louange vers Dieu. Je suis sûr que Dieu peut le faire, mais je pense que c'est malgré tout pas le chemin qu'il utilise en règle générale. Voilà. Je pense qu'au contraire, en règle générale, Dieu utilise nos aptitudes entre guillemets naturelles. Naturelles parce que c'est Dieu qui nous a fait. Et l'apprentissage, par exemple, du musicien, de cette musique, va peut-être durer des années de travail, avant que cette personne, au travers et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, ait la capacité d'aider, d'accompagner l'assemblée, l'Église, dans sa louange. Dieu accorde à chacun des dons. Il nous appartient à chacun d'utiliser ces dons à la gloire de Dieu. Alors, c'est un peu comme la parabole des talents en Matthieu 25. Vous savez où c'est un maître part et en partant, il appelle ses serviteurs. Oui, j'ai entendu miauler. Un chat qui veut venir, qui veut joindre à nous. Il appelle ses serviteurs et il leur confie des biens. Alors, il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Chacun en fonction de sa capacité. Et puis, il part. Et lorsqu'il revient, en fonction de la façon dont les serviteurs ont utilisé, géré ce qu'il leur a confié, le Seigneur leur dit « Bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La particularité des dons accordés par Dieu, des dons spirituels, c'est que ces dons sont destinés à remplir une fonction. Dieu accorde des dons dans un but bien précis. Ça signifie que les dons que Dieu nous accorde sont efficaces parce que Dieu les a donnés dans un but précis, dans le but que ces dons produisent des fruits spirituels. Et je reviens sur l'exemple des Corinthiens qui avaient reçu toutes sortes de dons. Dieu a organisé une collecte auprès des Corinthiens afin de venir en aide financièrement aux chrétiens de Jérusalem qui étaient dans la difficulté. Or, dans les différentes listes, dans une des 4 listes des dons, il s'avère que la libéralité, la capacité de donner généreusement, fait partie des dons de l'Esprit. Il nous est dit que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Eh bien, en quelle mesure cela devient un don spirituel? C'est parce que, en plus du rôle matériel qui consiste à venir en aide aux chrétiens de Jérusalem qui étaient dans la difficulté, cet acte va jouer un rôle spirituel. 2 Corinthiens 9, 12 nous dit « Le service d'avoir donné de l'argent que vous accomplissez ne pourra pas seulement aux besoins des croyants, ne pourra pas seulement à ça, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionné par la valeur de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance témoignant de votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. L'exercice d'un don spirituel produit des fruits spirituels. Non pas parce que nous sommes très forts et très compétents, mais parce qu'au travers de ce don spirituel, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère. Parce que la manifestation d'un don spirituel produit des fruits spirituels, l'Église, l'ensemble des enfants de Dieu, est en mesure, un critère, est en mesure de confirmer si un frère ou une sœur exerce bien un don spirituel dans l'Église. Pourquoi ? Parce que cela doit porter des fruits spirituels. Alors par exemple, en ce qui concerne le ministère prophétique, 1 Jean 4:1, mes chers amis, donc par rapport à ceux qui parlent, qui prétendent apporter une parole inspirée, mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. Nous ne devons pas nous contenter de l'affirmation d'une personne qui prétend faire les choses au nom du Seigneur, qui prétend manifester l'Esprit de Dieu qui est en elle. Nous devons vérifier si ce don porte de bons fruits qui attestent que ce don est spirituel. 1 Thessaloniciens 5, 19 et 21. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous devons, nous qui sommes témoins d'un don, de l'exercice d'un don ou d'un prétendu don, nous devons exercer notre discernement. Et nous pouvons le faire parce que l'exercice d'un don spirituel produit toujours un bon fruit. Un bon fruit spirituel. Pour la prophétie, ces dons sont l'édification, l'exhortation, la consolation, l'instruction. Alors ça, c'est les fruits particuliers pour la prophétie. Mais le principe est le même pour chaque don. L'exercice des dons spirituels produisent des fruits spirituels. Parce que Jésus est à la tête de son Église, parce que Jésus prend soin de son corps, l'exercice des dons spirituels permet à l'Église, au corps de Christ, de grandir et de se développer. Éphésiens 4, 15 et 16. C'est grâce à lui, grâce à Christ, que le corps forme un tout solide, bien uni, pour toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Qu'au sein de notre Église, Dieu nous permette de découvrir, de développer, de confirmer, de mettre en pratique pour le bien de tous les dons qu'il nous a accordés. Amen.
Bien, comme tout à l'heure, vous avez la parole, mais merci de lever la main, hein, pour, enfin, sauf s'il n'y a pas plusieurs personnes qui la demandent en même temps, mais pour qu'on puisse aussi n'oublier personne. Alors, Fred.
Oui, en fait, vous n'avez pas encore conscience que vous avez un don, en réalité. Vous avez besoin de tester ou de...
Je pense que le cas particulier de Moïse, c'est qu'il ne voulait pas y aller. Bon, il avait peur, il était quand même parti d'Égypte parce qu'il avait peur pour sa vie. Et puis ce qu'il met en avant, c'est qu'il n'avait pas le don, Dieu lui demande d'aller annoncer des choses, il n'avait pas le don pour parler, ce n'était pas un orateur. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il envoie son frère qui parlera pour lui. Donc quelque part là, ben là c'est intéressant, c'est qu'on voit que, je veux dire que Moïse a quand même eu, en tout cas un don particulier, c'est qu'il a eu cette capacité quand même de conduire ce peuple, un peuple rebelle, et puis il a eu les épaules solides, hein, parce que, enfin... Je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans la Bible qui me font bien envie. Mais Moïse, il n'en fait pas du tout envie. Parce que quand on voit, dire, nous, des fois, nos enfants, rien que le petit déjeuner déjà, on a un truc, il n'y a pas de céréales ou il n'y a pas de quoi, ça me gâche. Mais alors, si c'était plusieurs centaines de milliers de personnes, ça, 10 fois par jour pendant 40 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait donc, il a eu un dur, en tout cas, pendant 40 ans. Nos enfants sont entièrement.
C'est pas de lui dont il est dit que l'homme le plus patient de toute la terre.
Le plus humble de toute la terre.
Ouais, je pense que j'ai dû apprendre la patience aussi.
Mais qu'en tout cas, par rapport à un appel particulier, Dieu aussi, il avait des limites, Moïse, et que Dieu a pourvu au travers de quelqu'un d'autre, au propre manquement de Moïse, qui avait pas en tout cas un don d'orateur.
Mais est-ce que c'était pas un peu exagéré de la part de Moïse aussi de dire « Oh, moi je ne sais pas parler, alors de toute façon on voit quelqu'un d'autre ». Il n'avait pas trop envie d'y aller parce qu'il savait, il reconnaissait la difficulté, le prix, et puis comme a dit Pierre-Yves, il ne voulait pas retourner là où sa vie avait été mise à prix autrefois. Donc il était bien tranquille à garder les boutons de son beau-père, et puis voilà que Dieu lui demande une tâche impossible. Alors il a trouvé comme excuse « Mais je ne sais pas parler, enfin, c'est pas possible que j'y aille, je ne sais pas parler ». Bon, Dieu lui dit, mais ce n'est pas moi qui mets la parole dans la bouche. Donc voilà, Dieu lui a donné ce don, effectivement. Bernard.
Justement, dans le cas de Moïse, ça montre qu'il peut y avoir des dons insuffisants, mais que Dieu utilise quand même, parce que Dieu, il est dit que Dieu choisit les choses faibles du monde.
pense aussi le, l'avantage entre guillemets hein, de sentir qu'on a nos limites, c'est que ça rend humble. Parce que le nombre de, même quand on voit enfin, les reproches de Paul aux Corinthiens, hein, où les Corinthiens ont réalisé qu'ils avaient plein de dons, et en fait, ils en sont devenus quelque part orgueilleux, tellement orgueilleux qu'ils n'avaient même plus hein, à se soumettre à l'autorité de Dieu sur leur vie personnelle. C'est que ben voilà, on a été dotés, on est des super chrétiens, etc. Et qu'en plus, une difficulté, c'est apparemment, il y a les deux dons qui vraiment, auprès desquels ils couraient, c'était des dons plutôt extraordinaires, des dons qui se manifestaient. Alors, c'est sûr que c'est très grisant, je veux dire, s'il y a quand même un truc que j'aurais bien aimé faire à la place de Moïse, hein, c'est, vous êtes devant, vous avez des soldats qui vous pourchassent derrière, vous avez la mer devant, et puis, voilà, vous vous mettez dans l'eau, et puis, alors ça a pris toute une nuit, mais n'empêche, c'est extraordinaire comme sensation. Mais des fois, c'est dire qu'il faut être conscient qu'on n'est que les gérants des dons que Dieu nous accorde, et que des fois, l'avantage d'être incertain, il y a des gens, par exemple, pour l'évangélisation. On a, je pense, un piège, c'est de considérer que l'évangélisation, c'est style bigrain, c'est voilà, je mets là, ou c'est l'évangélisation dans la rue. On interpelle des gens, sauf que ça, c'est notre, la façon dont on imagine l'évangélisation. Il y a des gens qui sont tellement timides qui diraient mais ah non, moi jamais je pourrais faire ça. Et je suis convaincu que il y a parmi ces gens, il y a des gens très très timides qui ont un ministère d'évangéliste parce qu'au travers de leur relation très discrète de 1-1-1, et ben n'empêche, elles portent un fruit spirituel, c'est que au travers de ces personnes insécurisées, qui n'osent pas parler aux gens, et ben des personnes viennent à Christ. Et c'est pas parce que voilà, on parle de Dieu qu'on a forcément le don. Et qu'on a l'impression de ne pas le faire, qu'on n'a pas reçu.
Par rapport à ça, justement, je rejoins ce que disait Bernard. Je pense au contraire même que la différence entre un don spirituel et un don charnel, je ne dis pas naturel parce que c'est encore plus autre chose, mais c'est côté éblouissant. Et qu'un don spirituel n'est pas forcément éblouissant. Et je vais donner un exemple, hein. On peut avoir quelqu'un qui est un super musicien, mais parfois, plus son talent est éblouissant, moins peut-être il est facile de porter du fruit. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'écouter un chant chrétien avec une telle technicité de son, de musique, qu'en fait, j'ai passé mon temps à m'émerveiller de la musique et j'ai même pas fait attention ni aux paroles, ni à ce qu'on était censé communiquer. Ou parfois, ça peut être pareil pour un orateur. Un orateur, on peut dire, ouais, il parle bien. Ah, et puis en fait, au bout du compte, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma relation avec Dieu? J'ai été accrochée du début à la fin, mais est-ce que j'ai été encouragée? Est-ce que j'ai été exhortée? Est-ce qu'il y a eu un fruit spirituel? Et il me semble que parfois on confond le côté éblouissant avec la notion de don, et que dans le cas, et dans l'église des Corinthiens, je pense que c'était aussi un de leurs problèmes, mais qu'en particulier dans le cas des manifestations de l'esprit, c'est effectivement que Dieu puisse agir avec mon aptitude, mais parfois si mon aptitude est trop mise en avant, finalement, elle va faire l'inverse, elle va occulter peut-être l'action de l'esprit parce qu'elle va attirer le regard à moi, elle va me susciter de l'attention plutôt que de porter du fruit. Et moi je sais que quand je prends la parole, je sais pas, le dimanche matin, je suis très encouragée quand on vient me dire que quelque chose a fait du bien à exhorter, que Dieu a pu lui répondre à une question. Je suis plus perplexe si on me dit « Oh, t'as bien parlé. » Alors là, je me dis « Non, j'ai du mal parlé. » Alors, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis entre moi et Dieu. Enfin, voilà. C'est un peu du côté éblouissant, effectivement.
Est-ce que je peux raconter une petite anecdote? On a tous entendu parler de ce grand prédicateur, pasteur anglais, Spurgeon. C'était un homme qui avait un don extraordinaire. Il réunissait des milliers de personnes. Et à l'âge, je crois, de 29 ans, il a construit l'église baptiste du Tabernacle à Londres, qui contenait, je ne sais plus, quelques milliers de places, hein, qui pouvaient réunir des milliers de personnes. Et avant cela, comme il n'avait pas de grand bâtiment, il louait des halls anglais pour réunir beaucoup de monde. Et il n'y avait pas à l'époque encore de micro, alors pour tester un petit peu sa voix, hein, alors que ce hall était vide, hein, c'était avant la réunion, il s'est mis au pupitre, et puis il a dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y avait quelqu'un qui était en train de réparer sur le toit, qui a entendu cela et qui s'est converti. Donc, pour dire un peu comment Dieu peut utiliser aussi, il s'est devenu un prédicateur très, très talentueux, hein, mais avec une puissance aussi de Dieu formidable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est converti quand il avait 18-19 ans. Il allait à l'église et il y avait une grosse tempête de neige en Angleterre et il s'est perdu. Et il est entré dans une église où il n'était jamais entré. C'était une église où c'était complètement mort. Il n'y avait pas de vie, puis il y avait un prédicateur barbant qui a prêché très longtemps. Mais c'est là où il s'est converti. C'est la prédication de ce prédicateur-là, enfin, qui n'était vraiment pas talentueux, vous humains, qu'il a été touché par le Seigneur et il s'est converti. Donc voilà, juste un peu pour illustrer un peu, je crois, ce que tu viens de dire. Oui, Gérard.
Tout à l'heure, Thierry, tu disais que les dons peuvent aller en croissant, en se développant. Tu parlais au sens positif, au sens de s'améliorer. Or, si on prend par exemple l'exemple de Paul, quand il était au début de son ministère, il guérissait, par exemple, il avait le don de guérison. Et puis on a le sentiment que vers la fin, il ne l'avait plus, puisqu'il avait laissé Trophime malade à lier, et il n'était plus en capacité de guérir, alors qu'il avait ses dons de guérison manifestement au départ. Alors est-ce que les dons peuvent être donnés à des personnes dans certaines circonstances, ces dons sont manifestes et profitent dans certaines circonstances ou dans certains lieux, et dans d'autres lieux ne le sont moins. Est-ce que c'est... Parce que bon, il y a parfois des dons qui sont beaucoup plus manifestes quand il y a un appel, par exemple, qui s'y rattache, ou quand il n'y a pas d'appel. C'est-à-dire des dons qui sont en veille. Et on peut avoir des dons, mais être en veille. Soit parce que les gens ne mettent pas en avant la personne, n'essayent pas de savoir si la personne a des dons ou pas, ou soit parce qu'il a un appel, et à ce moment-là, ça se voit clairement, il est obligé de...
Et je pense que ça ouvre aussi une question sur la nature du don, qui est de... Le fait d'avoir un don signifie-t-il que ça va forcément produire du fruit tout le temps et sur tout le monde, et que le fait même que Paul n'ait pas guéri tout le monde, même dans les gens, dans ses proches collaborateurs, est-ce que ça signifiait qu'il n'avait plus ce don, ou est-ce que Dieu dans sa souveraineté fait en sorte que pourquoi cet ouvrier sur le toit s'est converti? Pourquoi est-ce qu'une autre personne qui a entendu la même chose ne l'aurait pas fait? C'est pas non plus quelque chose... Moi, je suis des fois gêné par un certain nombre de choses que j'ai lues ou entendues, où on a l'impression que voilà, des gens ont tel don, et en fait, bah forcément, il va se passer quelque chose. Or, il me semble que si le fait qu'ils aient un don, peut-être que c'est plus probable que ça se passe au travers de cette personne qu'au travers d'une autre, et qu'il faut qu'elle utilise ce don. Mais dire que c'est du systématique, ça me semble pas être en accord avec en tout cas l'expérience, même l'expérience de Jésus. Lorsque Jésus est venu chez lui, il est dit qu'il a fait peu de miracles parce qu'il a peu trouvé de foi. Or, si je pense que quelqu'un était particulièrement capable de faire des miracles, c'était bien lui.
Oui, Chantal.
Je réfléchissais à la place du don dans notre vie. Bon, pour une grande partie des personnes que j'ai rencontrées, quand on en parle entre nous, le fait qu'il est difficile de trouver son don me semble quelque chose qui est beaucoup, beaucoup dit. Donc, qu'on ne l'ait pas trouvé ou qu'on l'ait perçu, ou que ce soit manifeste pour beaucoup de gens, je me dis quelle est la place de ce don à l'intérieur de l'ensemble de notre vie chrétienne. Parce que j'ai un don X évident, et puis il y a la vaisselle à faire. Est-ce que parce que j'ai un don X évident, c'est évident qu'il manque quelqu'un à la vaisselle. Donc la Bible dit bien que quand on voit quelque chose à faire et qu'on ne le fait pas, c'est par péché ou quelque chose comme ça.
Oui, celui qui oui, peut faire le bien, qui ne fait pas comme un péché.
Voilà, exactement. Donc, il faut pas tout, il faut pas que parce qu'on réfléchit sur les dons, on occulte toute l'épaisseur de la vie de tous les jours, qui me semble très très importante. Et de ce fait-là, j'arrive à une phrase que j'ai souvent entendue, qui m'a posé beaucoup de questions, et que maintenant je crois avoir résolue. On ne peut pas dire que quelqu'un a quitté l'Église parce qu'il n'a pas trouvé sa place. Parce que l'épaisseur de la vie chrétienne est telle que même si on ne trouve pas son don, je ne sais pas, mais depuis qu'on est arrivé, vous n'allez pas me dire si vous auriez, chacun aurait pu faire mille choses d'amour envers les uns et les autres, les enfants, le, n'importe. Hein. Donc, il y a le don, et puis il y a toutes les, il me semble qu'il y a toutes les blessures du reste, et que parfois il ne faut pas dramatiser si on n'a pas trouvé son don. Oui. Tu vois, la place de l'un et du reste.
Je pense que c'est pas en termes de dramatiser, mais je pense qu'on peut tous faire un certain nombre de choses, mais ce que la Bible semble dire, c'est qu'en tout cas, enfin, que l'usage, l'utilisation, on est responsable de l'usage qu'on fait des dons que Dieu va nous accorder. Mais que des fois, on peut être un petit peu dans le flou. Mais je pense que, en règle générale, comme les dons que l'on a correspondent aussi à nos centres d'intérêt, eh bien, c'est bien plus créatif, c'est bien plus dynamique d'avoir une vie chrétienne où on a l'impression de, d'exercer les dons que Dieu nous a accordés, plutôt que de faire les choses en disant oh là là, pff, je le fais pour le faire. Et ça, ça devient très très dur. Et c'est même au niveau de l'Église, je pense que l'accent qui est mis sur la Bible, c'est dire mais que la richesse, que la façon dont Dieu a de prendre soin de son Église, c'est justement, il a une vision globale de l'Église, et ce qui va susciter tel et tel don, parce que dans le regard global qu'il a de l'Église, Dieu se dit que c'est une bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est dire les quatre listes de dons s'adressent à des églises, pas quatre églises, mais il y a plusieurs églises différentes, et on a l'impression, en même temps, les listes sont diverses, comme si jamais, dire mais ces dons-là, dans un contexte particulier, Dieu a doté cette église d'un certain nombre de dons, mais pas forcément dans une autre. Et est-ce que aussi c'est pas aussi comme ça que Dieu oriente la direction, oriente l'église en donnant à certaines églises des capacités, de certains dons plus qu'à d'autres. En même temps, le piège ce serait de dire mais moi j'ai ce don donc je dois l'exercer 100% du temps. Ou une chose qui me frappe, hein, je trouve que Dieu n'est pas un bon gestionnaire de ses ressources. Parce que si moi j'avais été à la place de Dieu, j'aurais pas fait en sorte que Paul soit obligé de travailler pour gagner sa vie. Vu qu'il avait du succès dans son ministère, j'aurais fait en sorte qu'il ait très très tôt dans son ministère un soutien financier pour qu'il ait pas besoin de passer du temps. Qu'il puisse se consacrer 100% à je vais dans la rue, je parle, j'enseigne, et non pas ben, je fais ça en dehors de mes 10 heures de temps de travail. Voilà. Donc en même temps, il faut pas non plus tomber dans le piège. Et une des choses qu'on n'a pas abordées, hein, mais ce qui est vraiment central dans. Et peut-être qu'on l'abordera, mais pas au cours de ce week-end, qui est absolument central dans tout l'exercice des dons, c'est que ce qui prévaut et ce qui est au-dessus même de l'usage du don, c'est la motivation, et la motivation, c'est l'amour. C'est le centre de la motivation. Et que parfois, se dire, mais moi je suis doué pour ça, mais en même temps, par exemple, même je vais prendre la parabole du bon samaritain, peut-être que parmi les prêtres qui passaient, il y en a qui étaient particulièrement doués. Mais peut-être que ce jour-là, donc ils allaient peut-être trouver des gens pour parler d'eux, etc. Mais peut-être que ce jour-là, et ben leur don, il fallait qu'ils mettent de côté parce que la priorité, c'était pas d'exercer ce don, c'était de manifester de l'amour pour quelqu'un qui en avait besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on. Voilà, c'est. L'usage du don ne nous dispense pas de manifester de l'amour, et des fois, il y a même certaines priorités. On peut avoir quelqu'un dans la vie qui a manifestement un don, mais qui soit incapable de le mettre même au service de l'Église, parce que je veux dire, ben, ce serait au détriment de sa famille, ce serait au détriment de sa santé, quoi que ce soit. Il faut aussi, voilà, il y a des priorités, mais globalement, si les gens qui ont des dons l'exercent, il vaut mieux que ce soit les gens qui ont le don pour les enfants, qui s'occupent des enfants, que d'autres personnes, par exemple.
pensais tout à l'heure quand Chantal parlait à acte 6, hein, où il y avait le problème du service aux tables, et l'apôtre Pierre a dit, mais on va choisir cette personne, hein, remplie justement du Saint-Esprit, pour le service de la parole, parce que nous allons nous occuper, et utilise le même mot, du service de la parole. Hein. Et je pense que ce n'aurait peut-être pas été juste que ce soit l'apôtre Pierre qui utilise son temps avec les apôtres, hein, pour servir aux tables. Je pense qu'il a dû le faire de temps en temps, et rien n'empêche à ce qu'il aurait pu très bien le faire. Mais je crois qu'il avait aussi le don, en tant qu'apôtre, d'apporter la parole de Dieu, l'évangile, que personne d'autre ne pouvait apporter d'ailleurs, parce qu'il a vécu avec le Seigneur. Hein, et je crois que c'était ça que Dieu lui demandait à ce moment-là. Il fallait que d'autres fassent autre chose pour répondre aux problèmes qui se présentaient.
Et dans ce cas particulier, ce qui est intéressant, c'est que c'était réellement servir aux tables, c'était pas faire le serveur, c'était la répartition de l'aide alimentaire qui était injuste entre ceux d'origine juive et ceux qui étaient pas. C'est vraiment, je veux dire, c'était un poste même à risque. Exactement, oui. Mais ils ont pu eux se consacrer à la parole parce que d'autres personnes se sont levées. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui, manifestement, l'Église s'est réunie, a pris du recul, en a désigné sept qui avaient les capacités, les dons nécessaires pour cela. Et parce que ces gens se sont levés, alors ceux qui jusqu'à présent le faisaient ont pu se consacrer à autre chose. Et ça, des fois, c'est là où on voit dans la gestion des ressources. Des fois, et ben, c'est vrai que plus personne se lève et plus les gens trouvent leur place, plus d'autres peut-être vont décaler leur place pour aller sur autre chose. Mais voilà, parce qu'en même temps, dans une église, dans une communauté, il y a un certain nombre de services, minima entre guillemets, qu'on soit doué ou pas, ben, des fois il faut les faire. Et des fois il arrive qu'on fasse des choses, non pas parce qu'on a une aptitude particulière, mais parce que ben, faut bien les faire, quoi. Mais c'est sûr que si quelqu'un d'autre avait non seulement l'envie de le faire, était plus doué que nous, ben, ça serait mieux.
Okay. J'avais trois petites remarques qui vont un peu dans le sens de ce qu'on a dit. Quand j'étais très, très jeune chrétien, je suis allé un jour dans un week-end, à l'époque ça s'appelait Vermont, maintenant ça s'appelle Villeranche, où celui qui devait parler c'est un théologien. Ça m'étonnait trop pour ceux qui m'ont connu. Et moi j'y suis allé un peu à reculons du monde à être à. Quand je suis arrivé, on m'a dit, tu joues au foot? Je dis, bah oui, je peux essayer. Oui. Il dit, bah écoute, Samuel Ménétro organise le tournoi de foot et il s'est bien joué avec nous. Hein, il t'avait peut-être bien, je sais pas, une soixantaine d'années à l'époque. Et non, peut-être pas. Et j'ai trouvé que c'était très très sympathique. Que cet homme-là, qui a effectivement été l'orateur et tout, a été aussi quelqu'un qui a su s'approcher des plus jeunes. Et finalement, moi j'ai dit, il doit avoir des choses intéressantes à dire s'il s'est approché des gens comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'un don, ça ne s'exerce pas forcément en plein temps, parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a eu un don d'éclairage de la Bible sur des choses difficiles pour toute une génération. Voilà. Pour répondre aussi à ce que disait Gérard, je ne crois pas qu'il y ait dans la Bible de passage qui nous dit qu'un don c'est forcément constant, et notamment le don de guérison, et que peut très bien arriver qu'on puisse être l'agent d'une guérison à un moment donné d'une personne donnée, et pas forcément avoir ce don en permanence et à perpétuité. Et on n'est pas des. C'est un don, c'est pas une profession. Et je suis un peu gêné parfois dans certaines conceptions de certains milieux. On a l'impression que des personnes font profession de ce don-là, comme si c'était constamment, comme si ils pouvaient l'exercer constamment. Et je ne sais pas si ce n'est pas un peu de la présomption. Alors là, je pose la question.
Un peu comme si le don était devenu un dieu.
Un peu, oui. Enfin, en tout cas, une habitude. Et puis, pour ce qui est de travailler à perfectionner le don qu'on peut avoir, moi, il y a un verset de la Bible qui m'a toujours fait frémir. C'est ce verset qui parle de Jésus, qui a appris l'obéissance. Et je me dis que si Jésus a dû apprendre l'obéissance, eh bien, nous avons des tas de choses à apprendre quand même si on veut être fidèle à Dieu. Voilà.
Bien, merci. Oui.
Le don, il est possible d'avoir un don et de ne pas en avoir vraiment conscience. Je cite un exemple d'un serviteur de Dieu qui se passe en Australie et tous les jours il avait décidé d'aller pendant une heure dans une rue principale de Sydney et puis d'interpeller les gens dans la rue et de leur parler. Et puis il avait manifestement, il n'avait pas de succès, ça ne passait jamais rien. Et longtemps après, au moment alors qu'il était sur son lit de mort, il a découvert qu'en fait, parmi tous les gens qu'il avait interpellés, il y avait une quantité considérable de personnes qui s'étaient tournées vers le Seigneur à cause de son interpellation personnelle. Alors que lui-même, on pensait que sa vie n'était pas ratée, puisqu'il ne considérait pas qu'il avait raté sa vie, mais il n'avait pas vu les fruits. Il n'avait pas vu les fruits de ce qu'il faisait. Et il avait un don. Il interpellait les gens à un point que les gens partaient quitter cette rue de Sydney. Et il en a retrouvé plusieurs qui m'ont raconté que d'autres s'étaient convertis par son intermédiaire, alors qu'ils les avaient juste interpellés. Donc il est possible d'avoir un don et de ne pas en être vraiment conscient, d'en faire profiter à la fois l'Église, en faire profiter les individus, et puis de découvrir un jour, 20 ans, 30 ans, oh, bah tiens, mais c'est passé ça, mais j'ai pas fait attention.
Non, pas vu. On voit la limite, là, effectivement, de quand je disais que en tant que communauté, on peut discerner si quelque chose porte des fruits ou pas. Et ben là, c'est une illustration de certains des fois de dons où ben les fruits on les voit pas parce que c'est des fruits qui s'exercent qui portent à l'extérieur ou des fruits des fois qui sont très longs avant d'être mûrs. Donc effectivement, là, il y a certaines de choses, il y a des limites avec la capacité qu'ont les autres à dire si on a ou non.
Mais ça peut se passer dans l'église aussi.
Oui.
Quelqu'un peut faire dire quelque chose dans l'église à quelqu'un et c'est 10 ans après que la personne n'a plus ou pas pu dire. Je m'en souviens pas.
Bien, oui, alors, mais
Gérard,
dernière question.
En fait, il avait bien un don, cette femme-là.
Oui,
mais il n'avait pas vraiment conscience.
Il
n'en
a pas vu les fruits.
Oui, mais
c'est deux choses différentes.
Non, mais il avait quand même conscience.
À mon avis, il avait conscience, s'il n'avait pas commencé à se mettre à la personne. Je pense qu'il devait choisir, il devait.
Et l'obéissait à un appel sans avoir conscience qu'il était un véritable évangéliste.
Disons qu'il avait le don de parler aux gens de Dieu. Il se sentait certainement très bien. Je pense même que si un jour il a demandé à un ancien pasteur ou un frère digne de confiance, on va dire, qu'est-ce que tu penses, je leur dis ça, je lui prends comme ça, ouais, t'as raison, on peut y aller confirmation. Après, il a dû souvent se dire, ouais, mais Seigneur, à quoi bon? Là, oui, je suis d'accord avec toi, mais je crois qu'il avait vraiment
On va continuer les conversations à table sans doute tout à l'heure, mais je pense qu'on est pris aussi par l'horaire et on veut avoir un temps de prière. Hein?
Alors là, on a parlé un certain nombre de choses et j'espère bien, c'est bien que justement il y ait un certain nombre de questions, etc. Il y a une question que je n'ai pas posée et que je ne poserai pas maintenant, c'est la question, est-ce que vous savez quel don ou pas vous avez reçu, mais une des équipes de vaisselle ont le don de... Mais moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est simplement qu'on se pose cette question-là. Quel objectif pour, je dirais, l'année que nous avons, qui s'offre à nous maintenant, et pourquoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au cours de cette année, on va chercher à discerner nos dons, les développer, les confirmer, si jamais on a déjà une idée, les mettre en pratique, ou encore, je dirais, les mettre en pratique, les améliorer, si jamais on a eu déjà confirmation d'un certain nombre de dons. Pourquoi ne pas se dire que l'année devant nous, eh bien, ce serait chouette si dans un an, après un certain nombre de choses qu'on a pu dire, des choses qu'on va aussi certainement encore aborder à l'église, mais pourquoi ne pas nous dire, tiens, ce serait quand même vraiment chouette si jamais je pouvais me dire que je vis, j'exerce les dons que le Seigneur m'a accordés. Maintenant, ça m'invite à avoir un moment de prière tous ensemble, donc prière libre, Et puis c'est moi qui clôturerai ce moment, hein, je pense, par la prière.